Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François appelle à un arrêt immédiat des violences et des pillages en Centrafrique. Vous entendrez l'archevêque de Bangui dans ce magazine. Il faut, selon lui, éviter à tout prix que cette crise politique ne devienne religieuse. Vivre la Semaine Sainte, c'est apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller surtout vers ceux qui ont besoin de compréhension, de consolation et d'aide. Le Saint-Père l'a affirmé lors de la première audience générale de son pontificat. Jeudi, il marquera le début du Triduum Pascal en célébrant la messe dans une prison pour mineurs. Dans cette émission, nous parlerons également du 17e centenaire de l'édit de Milan et du débat parlementaire en France visant à lever l'interdiction de la recherche sur l'embryon. Le pape François a présidé sa première audience générale ce mercredi matin sur la place Saint-Pierre, 2 semaines après son élection. Le Saint-Père est arrivé en papa mobile, acclamé par des dizaines de milliers de personnes. Et c'est à la Semaine Sainte, cœur de l'année liturgique, qu'il a consacré son discours entièrement prononcé en italien. C'est avec reconnaissance et vénération qu'il reçoit le témoin des mains de Benoît XVI. Après Pâques, a-t-il annoncé, il reprendra les catéchèses de l'année de la foi. Bernard de Cotigny.
Comme il est pénible de voir tant de paroisses fermées, alors sortons, allons à la rencontre des autres pour porter la lumière et la joie de notre foi. Il faut que nous sortions toujours avec l'amour et la tendresse de Dieu, déclarait le pape devant plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre sous un très beau soleil après quelques jours de pluie. Parce que Jésus, expliquait le pape, n'a pas de maison, sa maison ce sont les gens et sa mission est d'ouvrir à tous les portes de Dieu, être la présence d'amour de Dieu. Nous, nous mettons à disposition nos mains, nos pieds, notre cœur, mais c'est Dieu qui les guide, et d'ajouter « L'Église ne doit pas se contenter des 99 brebis, mais sortir de la bergerie pour aller retrouver la brebis perdue. » Un mot d'ordre donc, sortir de soi-même, aller à la rencontre des autres, vers les périphéries, vers ceux qui sont plus loin, qui ont besoin de consolation et de soutien, car pour le pape François, il faut absolument porter cette présence de Jésus miséricordieux. La logique de la croix n'est pas avant tout celle de la douleur et de la mort, mais celle du don de soi qui engendre la vie. Cessons de vivre notre foi fatiguée et routinière, enfermée dans nos schémas, qui finissent par fermer l'horizon de l'action créatrice de Dieu. La Semaine Sainte, conclut le pape, est un temps de grâce que le Seigneur nous donne pour ouvrir les portes de nos cœurs, de nos vies, de nos paroisses, de nos mouvements, de nos associations pour sortir vers les autres.
3 jours après le renversement du président François Bozizé, le pape François a profité de l'audience générale pour lancer un appel en faveur de la Centrafrique devant des milliers de personnes.
Seguo con attenzione.
Je suis avec attention les événements qui se déroulent actuellement en République centrafricaine et je désire assurer de mes prières tous ceux qui souffrent, en particulier les familles des victimes, les blessés et ceux qui ont perdu leur maison ou qui ont été contraints de fuir. Je lance un appel pour que cessent immédiatement les violences et les pillages et pour que l'on trouve au plus vite une solution politique à la crise susceptible de ramener la paix et la concorde dans ce cher pays, marqué depuis trop longtemps par des conflits et des divisions.
Le pape François à l'audience générale. Bangui, la capitale centrafricaine, vit actuellement des heures difficiles après le coup de force des hommes de la coalition Seleka. Le nouvel homme fort du pays a annoncé la suspension de la constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Il affirme qu'il gouvernera la Centrafrique par ordonnance et promet de mener une transition de 3 ans en respectant les accords de Libreville. Selon l'archevêque de Bangui, la situation reste précaire et les religieux catholiques sont particulièrement visés. Il a accueilli avec joie l'appel du pape. On l'écoute.
Ce message que nous accueillons vraiment avec une grande joie, nous faisons nôtre. Et j'espère que tous ceux qui ont encore une humanité, qui sont habités par la foi, pourront entendre le message d'un responsable religieux et qui se préoccupe de la population, parce que c'est la population qui est victime. Tous ces enfants qui ne peuvent plus aller à l'école et qui errent partout, tous ces fonctionnaires qui ont fui dans la brousse et c'est la saison des pluies et qui ne peuvent même pas manger et boire, ça c'est des préoccupations pour nous. tous ces malades qui sont en train de mourir, qui n'ont pas de médicaments, c'est des préoccupations pour nous. Le pape, il est solidaire avec nous. Tous ceux qui ont le pouvoir politique doivent entendre au moins ce message religieux et avec beaucoup de respect, avec beaucoup aussi de déférence, ils peuvent aussi accepter d'alléger la souffrance du peuple centrafricain, car le peuple centrafricain plus que jamais aspire à la paix. Le peuple centrafricain qui se prépare aussi à célébrer la fête de la mort et de la résurrection du Christ est un peuple qui espère être debout comme des ressuscités. Plus que jamais, ces hommes politiques doivent conjuguer leurs forces pour donner la chance, l'opportunité, la grâce à ce peuple de rester debout.
Est-ce que les pillages ont cessé? Quelle est aujourd'hui la situation à Bangui?
La situation à Bangui reste précaire. Il y a encore eu des pillages. Les pillages concernent l'ensemble de la population. Cependant, les religieux semblent être visés. Hier soir, les éléments de Séléka sont venus chez les pères Lazaris qui habitent le lycée des Rapides. Ils ont sauté le mur et à l'intérieur, les gardiens ont fui. Les pères sont restés. Ils ont forcé les portes. Ils ont trouvé le père responsable qui s'appelle Séraphin Zoga. Ils ont demandé des biens. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Comme ce n'était pas assez, ils l'ont taillardé. Et nous avons vu la plaie. Nous avons la preuve sur les photos que ce père a été blessé à la main et au pied. Et ils ont proféré des menaces en disant nous recherchons des pères, des sœurs. Nous osons croire que c'est les éléments incontrôlés qui osent prononcer ce genre de paroles à l'égard d'un homme de Dieu.
Il y a un risque que cette crise politique ne devienne également religieuse.
J'ose espérer que nous n'allons pas dévier de trajectoire. Cette crise, au départ, est politique. Faisons attention par nos actes. Si on va systématiquement chez les pères, les sœurs, pour voler, pour piller, eh bien, les gens se poseront mille et une questions. Pourquoi nos pères sont visités? Pourquoi les imams ne sont pas visités? Et ça va créer des frustrations, ça va créer la haine, ça va créer la vengeance. Voilà pourquoi les responsables doivent être vigilants pour lancer des appels clairs et nets, pour que les personnes engagées pour Dieu soient protégées. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. J'ose espérer encore qu'il s'agit des éléments incontrôlés. Ces éléments incontrôlés peuvent être contrôlés maintenant par leurs responsables. Sinon, eh bien, ils laisseront entendre qu'il y a quelque chose en dessous qui est préparé et eux-mêmes pourront assumer les conséquences.
L'archevêque de Bangui, interrogé par Hélène Destombes. Jeudi matin à 9h30, le pape François présidera la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre. En début de soirée à 17h30, il se rendra à Casal del Marmo, une périphérie romaine. Et c'est dans une prison pour mineurs qu'il célébrera la messe de la scène du Seigneur. C'est une première. Au cours de la célébration, le Saint-Père lavera les pieds de 12 jeunes de différentes nationalités et confessions. Conformément à son désir, la célébration sera empreinte de la plus grande simplicité. À la fin de la messe, le pape s'adressera aux jeunes détenus et au personnel pénitentiaire. Toutes ces célébrations seront retransmises en audio et vidéo par Radio Vatican. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Pour le père Olivier Peslac, aumônier du centre de détention pour mineurs de Marseille, ce geste symbolique du pape rappelle que l'Église se doit d'être au service de tous. Écoutez son témoignage.
Ah, c'est vrai que c'est vraiment un très très beau geste symbolique, comme vous le dites, puisque d'aller dans un lieu de détention, donc un lieu où a priori on peut penser que ce sont les hommes qui sont rejetés de la société parce que mauvais, que d'aller à la rencontre de ces personnes, en particulier des jeunes, je crois que c'est un geste très très fort que pose le pape et ça continue quelques gestes symboliques qu'il a posés depuis le début de son pontificat. Et je crois que les jeunes vont y être sensibles, mais aussi un tas de personnes dans le monde qui ont bien entendu cette insistance qu'il pose pour que l'Église n'oublie pas qu'elle est au service de ceux qui se sentent loin de Dieu et que Dieu, malgré tout cela, n'est pas loin d'eux.
Alors vous êtes aumônier dans le centre de détention pour mineurs de Marseille. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites exactement auprès de ces détenus?
Alors le rôle des aumôniers à la prison pour les mineurs de Marseille, c'est d'abord d'aller rencontrer les jeunes. Donc notre principale mission, c'est d'aller ou bien pendant leur temps de récréation où ils sont dans les petites cours et par groupe de 5 ou 10, les rencontrer pour, de façon amicale, leur montrer qu'on s'intéresse à eux et que gratuitement, des personnes peuvent venir le voir, pas pour les juger, pas pour les éduquer, mais pour rentrer en dialogue avec eux, et que ce soit au nom de l'Église et du coup symboliquement que Dieu se rende présent dans ces lieux, ça nous semble très important. Et puis on va aussi le rencontrer en cellule, donc dans des rencontres plus individuelles, où là il peut y avoir un suivi et puis des rencontres de longue haleine, puisqu'on peut les rencontrer plusieurs fois et dans une relation plus personnelle.
Et comment vous accueillent-ils ces jeunes ?
La particularité de l'EPM, de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille, c'est que la population est à grosse majorité, je dirais pas loin de 90%, issus de l'immigration. Donc des jeunes qui sont de tradition musulmane, même s'ils sont pas très pratiquants. Ils font souvent le ramadan, mais très peu la prière, par tradition familiale, peut-être plus que par tradition religieuse forte. Mais en tout cas, voilà, ils sont tous marqués, pour la plupart marqués par cette tradition-là. Et bah, étonnamment, ils nous reçoivent bien, parce que voilà, quand on vient se présenter, on dit bien qu'on vient pas pour les convertir, mais que comme croyants et hommes ou femmes de Dieu, eh bien, on pense que Dieu n'est pas étranger à la vie de ceux qui sont là présents, et que même si on prie différemment et qu'on conçoit différemment peut-être notre relation à Dieu, Dieu il est unique, et donc il est important qu'il se rende présent dans ce lieu-là.
Quelle est la particularité de ce ministère auprès des jeunes ?
La particularité, c'est que donc on vient rencontrer des jeunes qui sont souvent déjà depuis longtemps désocialisés, marqués par la délinquance, des crimes parfois mineurs mais parfois plus graves, beaucoup de trafic de drogue, et qui parfois désespèrent d'eux-mêmes, quoi. Du coup, en tout cas, n'osent plus espérer pour eux-mêmes. Et on a l'impression que la vie normale, c'est la vie de la débrouille, et que des personnes viennent s'intéresser à elles de façon gratuite, sans jugement, sans condamnation, et en continuant à poser un regard positif en disant « tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu... Tu comptes pour lui et il compte sur toi, et tu peux changer de vie, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. » Ça nous semble être quelque chose d'essentiel et de très structurant, même si c'est pas efficace et qu'on n'a pas un rôle d'éducateur ou de surveillant. Malgré cela, on pense que c'est important symboliquement d'avoir ce message et de le sentir quand on va à leur rencontre.
Qu'est-ce que vous apporte ce ministère que vous avez auprès de ces personnes ? Est-ce que quelquefois c'est un peu dur ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement et en tant que prêtre ?
Alors c'est vrai que c'est pas un ministère tout à fait simple, parce que on rencontre là la misère, quoi, et donc des jeunes où on peut parfois se désespérer de ce que la société produit. Alors bien sûr, on est bien conscient que ici on retrouve la marge complètement inférieure de ceux qui n'ont pas eu de chance, qui ont eu des soucis dans l'éducation, une défaillance de la famille, etc. Mais en dehors de ça, ce que ça nous apporte, c'est que je pense que on a l'impression symboliquement, qu'on fait ce que le Christ voudrait faire s'il était présent parmi nous. Alors, on n'a aucune prétention, on n'est pas le Christ, mais en même temps, on a cette fidélité à l'attitude première du Christ qui est venu à la rencontre des plus petits, des plus pauvres, des malades, des estropiés, des prisonniers, et qui jamais n'a eu un discours religieux un peu débile qui justifie le mal ou qui vient juger ou condamner, mais au contraire, qui toujours ouvre un avenir, encourage et dit que Dieu continue à nous aimer et qu'il est possible qu'on change de vie. Non pas pour mériter que Dieu nous aime, mais parce qu'on a découvert que Dieu nous aimait, alors on peut trouver la force de changer de vie.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. Et c'est le 7 avril que le pape François, nouvel évêque de Rome, prendra possession de sa cathédrale, la basilique Saint-Jean de Latran, la plus grande église de Rome après Saint-Pierre. Le Latran a été la résidence des papes jusqu'en 1309. Le 7 avril, c'est le deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. Le pape présidera une célébration eucharistique solennelle à 17h30. Pape François, c'est le titre d'un documentaire réalisé par le Centre de télévision du Vatican. Il a été présenté ce mercredi matin dans la salle de presse du Saint-Siège. Ce documentaire de 50 minutes, qui sortira le 2 avril en Italie sous la forme d'un DVD, retrace les moments forts des journées historiques que nous venons de vivre, depuis la renonciation de Benoît XVI jusqu'à sa rencontre avec son successeur samedi dernier, le pape François. Une version française est également prévue. Olivier Bonnel.
Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, celui qui a choisi le patronyme de François demande de prier pour son prédécesseur. On voit ensuite Benoît XVI annoncer sa décision de renoncer au ministère de Pierre, puis les images montrent son arrivée à Castel Gandolfo, les différents moments de la vacance du siège apostolique et le début du nouveau pontificat jusqu'à la rencontre historique entre les deux papes le 23 mars à Castel Gandolfo. Des journées inoubliables, des images empreintes d'une grande émotion, accompagnées de quatre entretiens avec des cardinaux, Angelo Comastri, le vicaire général pour l'état de la Cité du Vatican, rapporte les premières paroles prononcées par le pape François le 13 mars dans la chapelle Sixtine. Alors qu'on lui demande s'il accepte son élection à la papauté, l'archevêque de Buenos Aires répond « Je suis un grand pécheur, confiant dans la miséricorde et la patience de Dieu, dans la souffrance, j'accepte ». Le cardinal hondurien Oscar Maradiaga se fait l'écho quant à lui du désarroi éprouvé par les catholiques quand l'hélicoptère qui emmène Benoît XVI quitte le Vatican le 28 février, mais aussi de la grande joie éprouvée après l'élection d'un pape latino-américain. Le cardinal doyen Angelo Sodano analyse la continuité entre Benoît XVI et François, et le cardinal Gianfranco Ravasi relève le défi de la culture qui lui a été confié.
Durant les congrégations générales qui ont précédé le conclave, le futur pape François avait frappé les esprits des autres cardinaux en exhortant l'Église à sortir de son narcissisme théologique et à recentrer son énergie sur les périphéries géographiques, mais aussi existentielles comme le péché, la souffrance, l'injustice et l'ignorance. C'est l'un des membres du Sacré Collège qui l'a révélé. Le cardinal Ortega, archevêque de La Havane, a raconté devant les fidèles et dans les colonnes d'un hebdomadaire catholique cubain, en exclusivité presque absolue et avec l'autorisation du pape, comment ce dernier avait prononcé une intervention improvisée qu'il a qualifiée de magistrale, éclairante, engageante et vraie. L'archevêque de Buenos Aires avait affirmé qu'il fallait trouver les changements et les réformes capables de transformer l'Église mondaine qui vit en elle-même, d'elle-même et pour elle-même, en une Église évangélisatrice. Dans le cadre de l'anniversaire du célèbre édit proclamé par l'empereur Constantin il y a 17 siècles, la ville italienne de Milan accueille cette année de nombreuses manifestations. Une exposition préparée par un bibliste et deux historiens de l'art a ainsi été inaugurée mardi à la bibliothèque ambrosienne. Axée autour de la Bible, elle restera ouverte au public jusqu'au 30 juin. Parmi les œuvres exposées, un tableau peu connu de Marc Chagall, Le bateau de l'Exode. Dans une autre bibliothèque milanaise, on pourra admirer une reproduction grandeur nature de la Porte du Paradis de Lorenzo Ghiberti, réalisée pour le baptistère de Florence. Le programme des manifestations intitulé « Le grand alphabet de l'humanité » prévoit également un cycle de rencontres sur la Bible et la culture, un concours sur la tolérance et le rôle public de la religion destiné aux lycéens et la projection de 5 films dont « Constantin le Grand » de 1961 et « Les 10 commandements » de 1956. Xavier Sartre.
Comme on le sait, le règne de Constantin a profondément changé la politique de l'Empire romain, l'exercice du pouvoir, les règles sociales, les rites religieux et entraîné de profondes mutations culturelles. L'édit promulgué à Milan en 313 avec l'empereur Licinius en est l'une des étapes les plus significatives. Contrairement à une idée reçue, cette lettre circulaire ne visait pas à établir la suprématie chrétienne sur les païens, mais à garantir tous les cultes et à faire cesser les persécutions contre les chrétiens qui étaient alors très minoritaires dans l'Empire. Les historiens s'interrogent encore et divergent au sujet de la sincérité de la foi chrétienne de Constantin, adhésion réelle ou calcul politique. Reste qu'à partir de ce moment-là, l'Église accédera à un nouveau type de relation avec le pouvoir, la richesse et le conformisme social. Elle va s'insérer progressivement dans les structures de l'Empire romain dont elle utilisera l'héritage pour éduquer les peuples barbares. Il faudra cependant attendre l'empereur Théodose Ier en l'an 380 pour que le christianisme soit élevé au rang de religion officielle de l'Empire romain.
Ce jeudi en France, l'Assemblée nationale doit débattre d'un projet de loi visant à lever l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Le vote est prévu pour mardi prochain. Le texte a déjà été adopté par le Sénat au mois de décembre. Sur Radio Notre-Dame, lors de son entretien hebdomadaire, l'archevêque de Paris s'est élevé contre ce qu'il qualifie d'erreur grave par rapport à l'équilibre de la société, car on laisse le champ libre à tous ceux qui voudront essayer quelque chose. L'épiscopat et le clergé français ne cachent pas leur profonde inquiétude face à certains choix du gouvernement. Dimanche soir, après la manifestation immense contre le mariage pour tous, le porte-parole des évêques, Mgr Bernard Potvin, a affirmé qu'on ne pouvait gouverner sans écouter. Des mots qui résonnent comme un avertissement lancé au président de tous les Français et à tous les responsables politiques. Alors que le fossé se creuse, l'exaspération et la colère grandit parmi les citoyens catholiques français. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.